Assalamu alaikum. Dans notre église, nous avons l'habitude de souhaiter la bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. You are welcome. Bouyei malamu. Chez mes beaux-parents, on dit akwaba. Mais bon, sauf que la salutation nationale chez nous au Gabon, ça a une connotation pas très bonne pour mes frères Swahili. Donc, je préfère ne pas donner la salutation nationale du Gabon. Ouais, donc, voilà. Bon, bonsoir, la bienvenue. Voilà. Donc, nous sommes heureux de nous retrouver en tant que famille du Seigneur pour le louer ensemble, mais aussi pour réfléchir autour de sa parole. Et peut-être pour ceux qui sont là pour la première fois, nous avons commencé depuis quelques semaines à étudier ensemble en tant qu'église l'évangile de Marc. Et nous avons coutume dans notre église de vraiment étudier la parole de Dieu. On choisit un livre et on étudie ce livre pendant un moment. On fait très rarement des prédications, je veux dire thématiques, non. Nous prenons un livre dans la Bible et puis nous l'étudions pendant un moment. Nous laissons la parole de Dieu nous parler. Donc depuis quelques semaines, nous avons commencé avec l'évangile de Marc. Et nous avons, depuis déjà quelques semaines, planté le décor pour nous aider à pouvoir cheminer ensemble. Donc pendant que nous cheminons dans cet évangile de Marc, nous nous mettons dans la position des disciples du Seigneur en nous posant la question de savoir, mais qui est ce Jésus? Qui est ce Jésus qui nous invite à le suivre? Qui est-il véritablement? Est-il le Messie? Est-il un prophète? Est-il le roi que les Israélites attendaient qu'il allait venir renverser les Romains? Mais qui est ce Jésus? Est-il juste un faiseur de miracles? Juste une personne qui multiplie les pains? Juste une personne qui calme la tempête? Mais qui est ce Jésus? C'est vraiment la grande question à laquelle nous essayons de répondre semaine après semaine en nous mettant à la place des disciples dans la vie de Marc, en cherchant à comprendre qui est Jésus. Je le dis au premier, je le redis, pour certains peut-être c'est un peu redondant. Chaque semaine, c'est toujours les mêmes questions. Mais la vérité, c'est que lorsque nous décidons de mettre notre foi en Jésus et acceptons de le suivre comme ses disciples, nous sommes sans cesse appelés à grandir dans la connaissance de qui est ce Messie. Nous sommes sans cesse appelés jour après jour, saison après saison, à grandir dans la compréhension de qui est ce Jésus. Le cheminement des disciples dans l'évangile de Marc peut être aussi assimilé à notre cheminement avec Jésus de chaque jour. Chaque jour, nous apprenons à connaître qui est véritablement ce Jésus. Parce que notre désir à tous, c'est de grandir vers la ressemblance parfaite à Jésus-Christ. Et tant que nous serons sur la terre, nous allons continuer à marcher à sa suite. Je nous invite à découvrir notre texte de ce matin, Marc chapitre 9, les 13 premiers versets que nous allons voir ensemble. Marc chapitre 9, peut-être pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire la Bible, vous pouvez juste, si vous avez une Bible, regarder la table de matière, vous allez voir Nouveau Testament, Évangile de Marc, et puis il y aura la page. Je vais faire la lecture pour nous, à l'aide du PowerPoint, pour qu'on soit tous sur la même longueur. Donc Marc chapitre 9, on va lire à partir du verset 1er. Okay. Marc chapitre 1, nous allons lire ensemble les 13 premiers versets et on va juste s'apesantir pendant ces quelques minutes sur l'expérience de la transfiguration. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Ce sont les paroles de Jésus. Verset 2. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, je dirais le groupe PJJ. Et il les conduisit seul à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Dans d'autres versions, on dit aucun blanchisseur ne peut rendre des habits aussi blancs que dans ce texte. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient pas que dire, l'effroi les ayant saisis, tellement la vision était tellement formidable, ils ne savaient même plus quoi dire. Il dit, « Dressons trois tentes. » Une liée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour. Ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qui doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Si vous voulez voir la suite, persévérons dans le défi de la lecture de Marc que nous avons, qu'on nous a lancé au niveau de l'Église pour découvrir la suite. Mais je veux juste, pendant ces quelques minutes, nous entretenir sur cette expérience de la transfiguration. Peut-être le contexte, pour ceux qui n'ont pas lu les versets précédents, au chapitre 8, on se rend compte que Jésus pose la question à ses disciples. Que dit-on que je suis? Et les disciples répondent, certains pensent que tu es Élie, d'autres pensent que tu es un prophète. Donc il donne plusieurs éléments de réponse. Et Jésus pose la question à ses disciples, mais et vous? Que dites-vous que je suis? Que dites-vous de moi? Et Pierre, conduit par l'Esprit, dit, tu es le Messie venu de Dieu. Et par la suite, juste après, Jésus commence à annoncer ses souffrances. Il annonce qu'il va véritablement souffrir. C'est incompréhensible pour les disciples. Comment c'est le Messie qui est censé venir nous sauver? Et il annonce en même temps ses souffrances. Et après cela, il invite, il appelle ses disciples à venir à sa suite en leur disant clairement que celui qui veut être son disciple doit renoncer à lui-même, prendre sa croix et marcher chaque jour à la suite du Maître. Ce sont les paroles, je veux dire, qui terminent un peu le chapitre 8. Et il fait, j'ai envie de dire, une déclaration au verset 1er du chapitre 9. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Et c'est le contexte dans lequel cette expérience de la transfiguration se déroule. C'est une expérience merveilleuse. C'est une expérience fabuleuse. C'est une expérience extraordinaire. J'ai envie de dire que chacun d'entre nous aura envie de vivre. Mais dans le texte, Jésus prend trois de ses disciples. En lisant les évangiles, c'est personnel, j'aime bien dire, Jésus, il avait la foule, il avait les 70, il avait les 12 et il avait 3. Je dis, c'est comme s'il avait un groupe de croissance avec ces trois-là. Parce que ce qu'il vit avec eux, et même ce que Pierre peut dire à Jésus, tu te dis, mais attends, les autres n'avaient peut-être pas le courage de le dire avec les trois, le groupe des trois, PJJ, Pierre, Jean et Jacques. Ils vont à la montagne. Et la manière dont le texte est décrit ici, ça nous fait penser à ce qu'on appelle des théophanies. Comment est-ce que Dieu souvent se manifeste ou apparaît? Et même quand on lit les évangiles, on voit que souvent, lorsque Dieu envoie des anges pour donner des messages à des hommes, que ce soit Zacharie, que ce soit Marie, les anges ont tellement un éclat que souvent les hommes sont apeurés. Parce qu'ils sont tellement, je veux dire, brillants, ils sont tellement resplendissants. Et souvent, on a peur lorsqu'on voit de telles choses. Et c'est un peu la même expérience que le groupe PJJ vit avec le Seigneur sur la montagne. La transfiguration. Le Seigneur est changé devant eux. Ses vêtements deviennent tout resplendissants. Ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Une chose extraordinaire. Un avant-goût de la gloire à venir du Seigneur. Il leur fait goûter un peu ce qu'il sera à la résurrection. Ils vivent ça un peu. Ils sont émerveillés. Ils sont émerveillés, émerveillés par ce qu'ils vivent. C'est vrai qu'ils ont entendu que c'était le Messie. Mais ce Jésus, il était simple, humble. Il vivait avec eux, il mangeait ensemble. Il dormait, je veux dire, dans les mêmes chambres. Ils allaient ensemble en mission. Donc, ils voyaient Jésus tous les jours. Mais là, ils ont vu un autre aspect de ce Messie, un autre aspect de Jésus. Dieu leur a fait la grâce de contempler, d'avoir un avant-goût de la manifestation de du royaume de Dieu avec puissance. Dieu leur a fait un avant-goût, il leur a fait goûter un peu cette gloire de Dieu. Et ils sont émerveillés en regardant ce texte-là. En pensant à cette expérience, je pense même un peu à ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 15, lorsqu'il dit que les corps célestes sont différents, l'éclat d'un corps terrestre est différent de l'éclat d'un corps céleste. Ils ont vu un avant-goût de la gloire de Dieu. Ils ont vu un avant-goût, un autre aspect de Jésus, un autre aspect du Messie. Ils étaient habitués à ce Messie. Ils ont vu des miracles. Ils ont vu qu'il multipliait des pains. Ils ont vu qu'il guérissait des gens. Ils ont vu qu'il calmait la tempête. Ils ont même entendu et confessé qu'il était le Messie. Mais malgré tout cela, Jésus restait simple, humble, avec ses disciples. Ils mangeaient ensemble. Ils partageaient ensemble. Ils marchaient ensemble. La même poussière qui allait sur les pieds des disciples allait sur ses pieds dans son humilité. Et là, dans ce texte, tu leur fais la grâce de voir, de goûter un avant-goût de la gloire à venir. Qui atteste à nouveau que ce Jésus est véritablement le Messie. Par la suite, le texte nous dit que pendant qu'ils voient cela, deux personnes apparaissent. Ils étaient juste à quatre au départ, le groupe PJJ et Jésus. Survient Moïse et Élie qui apparaissent dans la nuée, qui apparaissent avec eux maintenant. Et du coup, ils sont étonnés. Non seulement ils sont étonnés de voir un avant-goût de la gloire du Seigneur, de voir comment est-ce que, je veux dire, les habits de Jésus resplendissent. Ils sont émerveillés par cette expérience extraordinaire, mais en plus de cela, ils voient apparaître Moïse et Élie. C'est tellement extraordinaire que Pierre ne sait même plus quoi dire. Il dit, « Seigneur, il est bon qu'on reste ici. Dressons trois tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme souvent, parfois quand on vit des expériences avec le Seigneur, c'est tellement bon qu'on n'a même pas envie de partir. On a juste envie de rester là. Parce qu'on a vécu une chose extraordinaire avec le Seigneur. Mais c'est intéressant de voir que juste après, le Père répond. Le Père intervient. Le texte dit quoi? La nuée, je veux dire les couvre, et une voix se fit entendre de la nuée. Et qu'est-ce que dit cette voix? Je paraphrase. Cette voix dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Et juste après cela, Moïse et Élie disparaissent, seul Jésus reste. C'est un peu comme l'expérience du baptême, où le Père a parlé le baptême de Jésus. Lorsqu'il est entré dans les eaux du baptême, on dit, le Saint-Esprit est venu sous la forme d'une colombe et la voix du Père s'est faite entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et là, dans le texte, la même voix du Père se fait entendre et elle dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le ou suivez-le. Cette image, elle est forte. Cette image, elle est forte. Peut-être pour nous, ça ne nous parle pas beaucoup. Je pense ce matin, personne d'entre nous n'est juif. Non, les frères, je ne sommes. Non, voilà. Donc nous sommes, j'ai envie de dire, étrangers à la culture juive. Mais c'est important, je veux dire, de se mettre dans la peau de Pierre, de se mettre dans la peau des disciples et de réfléchir quelle était la place de Moïse et quelle était la place d'Élie. Qui est Moïse? Il symbolise qui ou quoi? Qui est Élie et que symbolise-t-il? Comment le nom de Moïse et le nom d'Élie frappent ou parlent dans la tête d'un juif? Ceux qui ont l'habitude de lire peut-être l'Ancien Testament, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. On verra. On voit dans l'Ancien Testament qui est Élie. Et on voit aussi que ce soit dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, qui est Moïse. Et même quand on voit un peu les discussions de Jésus avec les scribes, les maîtres de la loi, à chaque fois, il rappelait à Jésus, Moïse a dit cela, Moïse a dit cela, Moïse a dit cela. Moïse, c'est le symbole de la loi. Et Élie, c'est le symbole des prophètes. Moïse, c'est le symbole de la loi. C'est par lui que la loi est venue. C'est lui l'instrument que Dieu a utilisé pour apporter la loi. Et quand on pense à Moïse, on pense à la loi que Dieu a donnée à son peuple. Et quand on pense à Élie, on pense au prophète. Non seulement Élie était un prophète qui était puissant, pas puissant lui-même, mais Dieu manifestait sa puissance au travers de lui. Mais Élie aussi symbolise ses prophètes. Ce qui est intéressant de comprendre, et dans le texte que notre ami tranche à lui au début, en parlant de la loi et des prophètes dans Luc 24, 27, la loi et les prophètes parlent de Jésus le Messie. Et c'est une belle image dans ce texte, où après la voix du Père, Élie s'efface, Moïse s'efface, et les yeux sont fixés sur Jésus qui est le Messie. Et le Père dit, s'il est mon fils, écoutez-le, suivez-le, c'est lui qui est le Messie, c'est lui qui est le Sauveur, c'est lui qui donne la vie. Et c'est bien de voir cette image dans ce texte. Élie s'efface, Moïse s'efface, et les yeux sont fixés sur Jésus qui est le Messie que nous devons suivre. Deux réflexions que ce texte peut nous amener à voir. La première réflexion, c'est la place de la loi et des prophètes par rapport à Jésus. La place de la loi et des prophètes par rapport à Jésus. Comme j'ai dit dans le texte, Élie symbolise, je veux dire, les prophètes. Moïse symbolise la loi. La loi et les prophètes. Quelle est la place de la loi? Quelle est la place des prophètes par rapport à Jésus? En réalité, Luc 24, 27, la loi et les prophètes parlent de Jésus. La loi et les prophètes annoncent Jésus. La loi et les prophètes disent que ce Messie qui viendra, c'est Jésus. La loi et les prophètes pointent nos regards vers Jésus. J'ouvre une parenthèse. Une vraie prophétie, la vraie prophétie, pointe nos regards vers Jésus et non pas vers nous. La vraie prophétie pointe nos regards vers Jésus et non pas vers nous. Oui, la loi nous permet de nous rendre compte que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sauver parce que nous sommes incapables de respecter toutes les exigences de la loi. La loi n'est pas mauvaise. Mais au contraire, la loi montre comme une fois, nous sommes incapables de plaire à Dieu par nous-mêmes. C'est la première réflexion. La deuxième réflexion, c'est la place des expériences, je veux dire extraordinaires, sensationnelles, waouh, dans la présence de Dieu, par rapport à la place de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu faite chair dans le texte, c'est Jésus-Christ, qui est l'expression la plus forte de la parole de Dieu. Quelle est la place des expériences, je veux dire, extraordinaires, sensationnelles, qui sont extraordinaires, waouh, par rapport à la parole de Dieu? Ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire. J'avais envie dans le texte que Dieu leur dise, mais oui, Pierre, tu as raison, on va dresser trois tentes. Mais cette partie termine en disant que Jésus, la parole de Dieu faite chair, est le Fils de Dieu et c'est lui que nous devons écouter, c'est lui que nous devons suivre. S'il faut mettre sur la balance des expériences qu'on peut faire avec le Seigneur. Quand je parle d'expérience, je parle même d'expérience dans notre marche avec le Seigneur. Ça peut être l'expérience des années en Christ. Si on met ces deux choses sur la balance, toutes nos expériences ne font pas le poids face à la parole de Dieu. Toutes nos expériences ne font pas le poids face à la parole de Dieu. Et je vais ouvrir une grande parenthèse par rapport à cela. Parce que souvent, même dans notre contexte aujourd'hui, on a l'impression que nos expériences personnelles sont au-dessus de la parole de Dieu. C'est ce que j'ai vécu. Dieu peut nous faire la grâce de vivre des choses extraordinaires. Il est bon et il aime ça. On peut être dans sa présence, on peut sentir, oui, la présence de Dieu, sa paix, son amour. On peut sentir, oui, même les dons, je veux dire spirituels, on peut sentir des choses extraordinaires. Mais qu'est-ce qui nous permet de réguler cela? C'est la parole de Dieu. Et ces expériences ne peuvent pas être au-dessus de la parole de Dieu. Quelle est la place de la parole de Dieu? Cette parole de Dieu, l'expression la plus forte, elle se voit en Christ. Et on le voit dans le texte. Moïse, Élie, la transfiguration, fixent les regards vers Jésus. Et le texte dit, voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Voici la parole de Dieu faite chair qui donne la vie, écoutez-la. Et Jean 1, peut-être en utilisant l'image de Genèse 1, nous décrit cette parole de Dieu. Il dit, au commencement était la parole, était avec Dieu, la parole était Dieu. Et c'est important de voir comment il décrit la parole. La vie vient par la parole. C'est cette parole qui nous donne la vie. Et cette parole, c'est Jésus. On voit quelques questions dans le texte que les disciples se posent. Leur porte-parole dans le texte, c'est Pierre. Il dit déjà, dressons trois tentes. Il pose la question, que veut dire ressusciter d'entre les morts? Il pose la question, mais pourquoi les spécialistes de la loi disent qu'Élie doit venir avant? Ensuite, pourquoi l'Écriture annonce que le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup et sera méprisé? Surtout sa dernière question, mais on a vu la gloire de Dieu, on a vu le Messie, on a vu qu'il calme la tempête, on a vu qu'il multiplie les pains, on a vu qu'il guérit les gens, on a vu qu'il chasse les démons. Mais comment il va encore souffrir? Mais c'est impossible! Il est tout puissant! Mais en réalité, son règne ne s'impose pas par la force physique. Son règne s'exprime par le fait qu'il est venu aller jusqu'à la croix, porter nos fautes, porter nos péchés. Il est mort et il est ressuscité pour nous libérer, pour nous donner la vraie vie. Il est venu pour nous délivrer, pas tant de l'oppresseur romain, mais il est venu pour nous délivrer de l'esclavage du péché qui nous conduisait loin du Seigneur, pour nous ramener au Père. Je termine avec quelques questions et nous allons prier. La question que j'aimerais nous poser, qui écoutes-tu? Qui a pleine autorité dans ta vie? Est-ce le Messie Jésus, la parole de Dieu? Quelles sont les tentes qu'il y a dans ta vie? Pierre, dans le texte, a dit, dressons trois tentes, une pour Élie, une pour Moïse et une pour le Christ. Mais ce n'est pas ce que Dieu a fait. Au final, il est resté une seule tente, le Fils de Dieu, la parole de Dieu. Qui écoutes-tu? Qui a toute autorité dans ta vie? Qui règne dans ta vie? Est-ce que tu es sous la tente du prophète? Comme Pierre a dit à Jésus, au Père dans le texte, est-ce que tu es sous la tente du prophète? Est-ce que c'est le prophète qui conduit ta vie? Est-ce que ta vie est conduite par les prophéties? Il y a certaines personnes, je veux dire, le matin avant de sortir, il faut que voilà, le prophète m'appelle pour me dire si je dois sortir ou pas. C'est lui qui dit que c'est lui qui est ton sauveur et ton Seigneur. Vous riez, mais c'est vrai. Est-ce que tu es sous la tente du prophète? C'est lui qui est ton intermédiaire entre Dieu et toi. La tente d'Élie qui marque ici, qui symbolise les prophéties. Et je l'ai bien dit, les prophéties nous orientent vers le Christ. Mais cette tente-là, je veux dire, elle n'est pas demeurée dans le texte. Est-ce que tu es sous la tente des prophéties? Est-ce que tu as juste des démangeaisons d'entendre des choses qui te sont agréables? Paul en parle à son fils Timothée, que dans les derniers temps, voilà, on se fera une foule de docteurs à notre guise pour entendre des choses agréables. Est-ce que tu es sous l'attente des prophéties? Est-ce que tu es sous l'attente d'un pasteur? Il y a certains aussi, c'est ça. Leur vie est conduite par le pasteur. C'est le pasteur qui est Jésus-Christ dans leur vie. Si le pasteur dit ne sort pas, il ne sort pas. Si le pasteur a dit « sors », il faut sortir. Si le pasteur a dit « faut pas saluer tes parents », il ne va pas saluer. Je suis sérieux. Qui écoutes-tu? Qui a toute autorité dans ta vie? Est-ce que tu es sous la tente de cela? Pour d'autres, ils sont sous la tente, je veux dire, des émotions, des sensations, de la chair. Voilà, je marche par ma chair. Puisque moi, je veux faire ça. C'est ma vie de toute façon. Moi, je marche comme je veux. C'est ma vie. J'aime ça, ça me fait, j'aime bien les sensations, voilà. Et puis bon, je le dis franchement, je viens d'une culture d'église, moi je suis pentecôtiste, charisme, moi j'aime ça, voilà. Ça se voit même quand je prêche, j'aime ça, nous on aime les sensations. Mais une sensation qui n'est pas canalisée, qui n'est pas orientée par la parole de Dieu, nous mène droit à l'armée. Ce ne sont pas mes sentiments qui conduisent ma vie. C'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ qui contrôle ma vie et qui dirige ma vie. Est-ce que je suis sous l'attente des sentiments, des sensations, des expériences? Ou est-ce que nous écoutons ce que le Père a dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, suivez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, marchez à sa suite. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Oui, c'est Jésus qui est cette parole de Dieu. C'est lui qui est ce sauveur. C'est lui qui est ce Messie. C'est lui qui est cette parole qu'il faut écouter. Dans Jean 1, on nous dit clairement qu'il est cette parole de Dieu. Qui était avec Dieu? Qui est Dieu, il est cette parole de Dieu qui donne la vie. Il est cette parole de Dieu qui sauve. Il est cette parole de Dieu qui est celle-là qui annonce le salut, qui donne le salut. Il est cette parole de Dieu qui nous donne la vie véritable. Il est cette parole de Dieu qui proclame qu'il est le Messie à la suite duquel nous devons marcher pour avoir la vie. Est-ce que c'est cette parole de Dieu que nous suivons? Est-ce que c'est ce Messie en qui nous avons mis notre foi? Est-ce que c'est ce Dieu-là, ce Jésus en qui nous croyons comme Messie? Ou plutôt, nous avons d'autres tentes dressées dans nos vies dans lesquelles nous mettons notre foi? Est-ce que tu es sous la tente de tes mérites, l'image de la loi? Penser plaire à Dieu, penser avoir la vie éternelle en observant la loi. Je dois faire ça. Voilà, je ne dois pas voler, je dois être quelqu'un de bien. Voilà, une fille bien. Voilà, Sainte Marie à la faculté, je suis Sainte Marie. Voilà, je suis bien, gentil, voilà, poli. Et si je fais ça, voilà, je serai sauvé. Quand Dieu va me voir, je serai pur. Il faut, voilà, que je sois, voilà, je dois m'habiller d'une certaine manière, voilà. Est-ce que je suis sous le poids de la loi? Et penser, je veux dire, obtenir ou plaire à Dieu en observant la loi, en étant légaliste? Est-ce que je suis sous la tente de Moïse? Sous la tente de la loi, en pensant mériter le salut de Dieu, en obéissant à toute la loi? En faisant des efforts pour arriver à Dieu? Mais Dieu a vu que c'était zéro, c'est pourquoi il est descendu vers nous. La transfiguration est un avant-goût de la gloire de Dieu qu'il manifeste au travers de son Fils Jésus-Christ pour montrer aux disciples que Jésus est véritablement ce Messie qu'il faut suivre. Qui écoutes-tu? Qui contrôle ta vie? Qui dirige ta vie? Qui est le Messie de ta vie? Au travers de cette expérience, le Seigneur a voulu montrer au PJJ, Pierre, Jean et Jacques, qu'il est le Messie et que c'est lui que nous devons suivre. Pas la loi, pas les prophètes, les hommes, non. Seul Jésus. Et c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père autrement que par lui. Et c'est ce Jésus ce matin qui t'invite à sortir de toute forme de tente sous laquelle tu as abrité, à enlever toute forme de faux messie qu'il y a dans ta vie et à revenir à lui. À revenir à lui, Jésus. Le texte dit écoutez-le, écoutez-le, écoutez-le. Il est la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez Jésus qui est cette parole de Dieu par excellence. Quelle est la place de la parole de Dieu dans ta vie? Quelle est la place de la parole de Dieu dans ta vie? Qui dirige ta vie? Qui est le Messie dans ta vie? Est-ce Jésus? Ou bien c'est Moïse qui est ton Messie? Ou bien c'est Élie, le prophète de puissance, qui est ton Messie? Ou bien c'est ton pasteur, pasteurisé pastèque, qui est ton Messie? C'est ton travail qui est ton Messie? Qui est ce Messie? J'aimerais terminer en nous invitant à répondre à cet appel que le Père lance dans le texte. Celui-ci est mon fils, suivez-le. Celui-ci est le Messie, suivez-le. Si vous voulez avoir la vie, si vous voulez avoir le pardon des péchés, si vous voulez être réconcilié avec le Père, c'est le Messie qu'il faut suivre. Et ce matin, c'est cette même invitation à laquelle le Père nous lance. De suivre le Messie Jésus, de faire de lui le Messie dans nos vies. Quelle réponse tu donnes à cette invitation? Quelle réponse tu donnes? J'aimerais nous inviter, en terminant ce culte, à répondre à cette invitation, à cet appel de Dieu, le Père, à notre endroit. Jésus est le Messie. Écoute-le. Quelle réponse tu donnes à cela? Prenons un temps maintenant dans la prière pour répondre à cette invitation du Seigneur. Répondre à cette invitation du Messie. Lui qui est la parole de Dieu, qui nous aime, qui désire nous sauver. En pensant aux paroles de ce chant. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois au Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quelle réponse tu donnes à cette invitation? Prenez un temps dans la prière et après on chantera ce chant pour terminer. Écoute de ta parole, Seigneur. Te demander pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour tous ces bergers, pour tous ces messies, Seigneur, qui ont régné dans nos cœurs, qui ont régné dans nos vies. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Et ce matin, nous avons entendu ta voix. Nous avons entendu ta voix qui a dit, « Celui-ci est mon fils, écoutez-le. » Et Seigneur, nous voulons répondre favorablement à cette invitation en mettant en toi, Jésus, le Messie, notre confiance, notre foi, nous abandonner totalement à toi, afin que tu sois le seul berger dans nos vies. Que toute voix de faux berger se taise dans nos vies. Que seule la voix de Jésus, le bon berger, que seule la parole de Dieu ait toute autorité dans nos vies. Nous acceptons avec foi de marcher à ta suite comme tes disciples, Seigneur. Merci de nous aider par ton esprit. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen.